Université.
Découverte.
Participation.
Création.
Expérimentation.
La fabrique sonore.
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 Salut et bienvenue dans le hall de la fabrique. Nous sommes le 5 décembre 2024 et vous allez écouter une émission inédite préparée par l'équipe de la fabrique sonore. Au programme, nous accueillerons Eva de l'association Linky qui lutte contre le gaspillage alimentaire et organise des distributions de paniers gratuits pour les étudiants et les étudiantes ici à la fabrique.
Nous recevrons aussi Delphine Robert du service culturel du SIAM avec qui nous allons échanger autour de la programmation de lieux et des enjeux d'être un centre culturel au sein de la faculté Jean Jaurès et du quartier du Mirail.
Tout cela parsemé de fictions sonores et de bandes annonces préparées par nos soins.
3, 2, 1, c'est parti!
Alors, tu as reconnu ? Ça t'avait manqué ?
Si tu veux venir te défouler sur tes meilleures chansons de Noël, il y a Blind Test et Karaoké, le jeudi 19 décembre à 12h45.
Au tiers-lieu, dans le bâtiment Olympe de Gauche. Animé par les étudiants et les enseignants du département de musique de l'université avec de la musique live.
Alors, viens te tester.
Le 19 décembre, sur le campus du Mirail. Seras-tu au niveau ?
La Fabrique Sonore est une émission réalisée par une équipe d'étudiants et étudiantes qui s'initie aux médias radio dans le cadre des ateliers artistiques du SIAM. Et d'ailleurs, nous accueillons Delphine Robert. Bonjour.
Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et quel est ton rôle ici au Centre d'initiative artistique du Mirail, dit le SIAM ?
Alors, je suis médiatrice culturelle en charge des projets qui sont en lien avec la CEVEC Culture. La CEVEC, tous les étudiants savent ce que c'est puisqu'ils la payent. Elle sert à financer des projets non pédagogiques, donc ça va être des projets culturels, des projets sportifs, des projets qui concernent les affaires sociales et le handicap. Donc voilà, moi je gère la CEVEC Culture au sein du SIAB. Je m'occupe aussi d'accueillir le public étudiant, de préparer des actions qui vont aller à son endroit pour faire en sorte qu'ils s'approprient la fabrique, qu'ils s'y sentent comme chez eux et qu'ils viennent voir toute la programmation qu'on met en place.
Et comment vous construisez la programmation ? C'est les étudiants qui y participent ? Est-ce qu'il y a des artistes extérieurs invités ?
Alors, on a 3 chargés de programmation. Jérôme Carrier qui s'occupe du secteur art visuel, qui va donc concevoir, imaginer, coordonner toutes les expositions qu'on fait ici. C'est des expositions qui sont parfois conçues autour du travail d'artistes extérieurs, parfois autour du travail des étudiants et des étudiantes qui sont dans les masters d'art appliqué ou les masters métiers de l'art. Donc ces étudiants peuvent intervenir à 2 niveaux, soit ils exposent leur propre création pour certains, soit ils accompagnent la création d'expositions, donc ils s'occupent à la fois de réfléchir au budget, à la régie, au choix des œuvres, etc. Donc c'est vraiment un travail très complet, ils sont accompagnés dans ce travail bien sûr par leurs enseignants et notamment par Jérôme Carrier et Christian Sadjet qui est le régisseur dédié aux arts visuels ici depuis je ne sais pas combien d'années, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis très longtemps. Voilà, donc ça c'est pour les arts visuels. Ensuite on a Charlotte Foussard qui est chargée de programmation sur les projets musique, cinéma et littérature. Il y a une programmation très riche et Delphine Champagne qui, elle, s'occupe des arts vivants, donc la danse, le cirque et le théâtre, qui sont présentés pour la plupart du temps à la scène, qui est notre grande salle de spectacle, puisque c'est quand même une salle avec une jauge confortable, il y a 170 places. Et puis, il y a des projets qui se tiennent aussi en extérieur.
Et quels seront les temps forts de la programmation au prochain semestre ?
Alors, au prochain semestre, je peux commencer par les expositions. On va avoir 2 expositions en début d'année. Une qui est consacrée à l'artiste Amélie Scotta, qui travaille sur de très grands formats. Elle fait des dessins d'architecture assez réalistes. Enfin, il y a toujours une petite distorsion qui fait qu'on voit que c'est quand même du dessin, mais c'est des dessins très spectaculaires. Et en regard de son travail, seront présentés aussi une sélection de travaux des étudiants qui sont dans le Master Karma. Ils vont présenter des projets et ils seront sélectionnés. Il y aura un jury qui sélectionnera les œuvres présentées. Donc Amélie Scotta sera dans le cube et les étudiants seront dans le tube, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est la première expo. Donc c'est du 15 janvier au 19 février. L'expo suivante sera préparée par les étudiants en Master Métier de l'Art, en M2. Ça sera autour de l'espace, du voyage spatial, avec la participation du CNES qui va leur donner accès à leurs archives pour concevoir cette exposition. Donc je pense que ça va être assez passionnant, parce que ça nous permet d'explorer aussi les relations entre l'art et la science. C'est du 12 mars au 6 avril. Voilà. Ça, c'est pour le côté art visuel. Pour ce qui est du reste, il y a pas mal de choses. On a des partenariats, notamment avec le Lido. Donc, il y a une promotion, la dernière promotion de l'Exacto Lido qui va venir présenter son spectacle. Ça sera le 15 janvier. Ensuite, donc, on a d'autres événements. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais peut-être je peux parler du 5 et 6 février. On a l'orchestre étudiant Opus 31 qui va venir jouer la musique de Zelda. Donc ça, je sais que ça va parler à pas mal de monde. Voilà, il faudra vous hâter d'arriver à la fabrique pour être sûr d'avoir votre place dans la salle. On va aussi avoir une soirée avec Ciné Latino le 20 février, une thématique autour du Brésil. Je pense que ce qu'on peut souligner surtout, c'est aussi les deux festivals principaux qui vont arriver. En premier lieu, Nouveau Futur, qui est le Festival des littératures et des oralités. Ça sera la deuxième édition. Ça, ce sera du 10 au 14 février. Et c'est consacré à la thématique du vivant cette année. Voilà, la programmation n'est pas tout à fait ficelée. Alors, je ne veux pas dévoiler le contenu. Il faudra vous tenir au courant. Et le deuxième festival qui vous concerne, vous, l'équipe de la Fabrique Sonore au premier chef, puisque c'est le festival Esquisse, le festival des ateliers de pratique artistique du SIAM. Et ça sera sur la première quinzaine d'avril. Donc on aura des restitutions de tous les ateliers réguliers, les ateliers un petit peu plus courts. Donc les étudiantes et les étudiants qui participent à ces ateliers vont venir montrer ce qu'ils ont réalisé.
Et justement, peux-tu nous parler des ateliers artistiques qu'il y a au SIAM ?
Ah, ça tombe bien. oui, je peux vous en parler. Donc, c'est chaque année des ateliers qui sont ouverts de manière tout à fait... comment dire ? Il n'y a pas de prérequis de niveau. Donc, n'importe qui peut s'y inscrire. Beaucoup d'ateliers dans l'année, je crois qu'au total, on en a une vingtaine. Là, pour l'instant, il y en a 17, je crois, mais il y a des actualisations, puisqu'il y a des petits ateliers qui viennent ponctuellement sur des festivals ou lors d'événements particuliers. Par exemple, si une compagnie vient présenter un spectacle, elle peut vouloir animer un atelier, ou un artiste qui présente une expo peut venir aussi animer un atelier. Donc, il faut pour cela aller sur le site Culture de l'Université, à la rubrique Pratique artistique. Vous avez toute la liste. Actuellement, donc, il y en a à peu près 17. Vous avez du théâtre d'impro, du théâtre plus classique, du jonglage, de la gravure. Voilà, enfin, c'est très, très varié. Et atelier web radio aussi. Et je vous invite, si vous êtes étudiant ou étudiante, à vous pencher là-dessus, parce que c'est des ateliers entièrement gratuits, puisque financés par la CEVEC. Donc c'est une grande chance, parce que quand on est dans les études, on pense pas toujours que sur le lieu de la fac, il y a des choses qui peuvent nous intéresser, nous nourrir aussi pour les loisirs. Tout le monde n'a pas cette opportunité d'avoir ces ateliers gratuits avec des professionnels qui les animent. Donc voilà, si vous avez envie de faire de la danse, du théâtre, quoi que ce soit, regardez la page des ateliers. C'est vraiment, moi, si j'avais été étudiante, je pense que je me serais inscrite à pas mal de choses.
Et est-ce que ça vous arrive de recevoir des célébrités à la fabrique ?
Carrément, oui, bien sûr. On a des célébrités. Alors, qui c'est que je peux nommer ? Le groupe Merci, qui est très connu pour ceux qui suivent l'actualité performative et théâtrale, on va dire. qui était là l'année dernière. On a des pointures du piano qui viennent notamment à l'initiative du département musique de la fac, qui sont très actifs et qui proposent beaucoup de sessions voilà, dans le cadre des cartes blanches qu'on leur laisse. Je pourrais citer Alain Damasio, qui est venu l'année dernière dans le cadre du festival Nouveau Futur, donc c'est le maître français de la science-fiction. Voilà, et cette année, je ne sais pas qui on aura encore, je ne peux pas trop dire, mais je pense qu'il y aura aussi des personnes de poids, entre guillemets.
Et qui fréquente la fabrique ? Est-ce que vous avez un public cible ?
Évidemment, le public cible, c'est les étudiants et les étudiantes, puisqu'on est quand même le centre culturel de la fac. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse en priorité. Mais la fabrique est ouverte à tout le monde. Tout est gratuit ou presque, à l'exception de certains spectacles qui se font dans le cadre de partenariats. Mais tous les publics sont les bienvenus. Donc, le public du quartier, évidemment, en premier lieu, puisqu'il est proche. Donc, on espère qu'il puisse venir pour franchir cette limite symbolique de la fac et venir voir ce qui s'y fait. Et puis après, il y a le public qui vient d'ailleurs, hein, de la région, ou de plus loin s'il veut, ou du centre-ville tout bêtement. Mais oui, ce qu'on aimerait faire, c'est réussir à mixer davantage les publics.
Et selon toi, pourquoi les habitants du quartier ne franchissent pas cette barrière symbolique dont tu parles ?
Il y a plusieurs raisons. Je pense que l'université peut être perçue comme un lieu dédié aux étudiants. Donc peut-être que les personnes qui habitent dans le quartier ne se disent pas qu'il va y avoir des choses pour elles. Ensuite, il y a aussi que c'est peut-être perçu comme un lieu élitiste. Il y a cette idée que c'est une fac dédiée aux lettres, aux arts, à la philo. Donc peut-être qu'on peut souffrir un petit peu de ce cliché-là. Et puis après, c'est aussi à nous, personnel de l'université, étudiants, étudiantes, d'aller vers ces publics et de leur montrer que ce qu'on y fait, ça les concerne, qu'on peut construire des choses main dans la main aussi. On mène quand même plusieurs projets où on essaie d'associer le public étudiant et des personnes du quartier. Donc par exemple, pour en citer un seul, des espaces autres, qui est en fait une exposition chaque année qui naît d'un appel à projet auprès de la communauté étudiante, des enseignants, des enseignantes et aussi des habitants du quartier. Et là, l'idée, c'est sur la thématique de comment vous percevez le quartier du Mirail, comment vous percevez la fac dans son environnement. Proposez-nous une installation, une œuvre d'art. Et donc, on attend des propositions et un jury fait une sélection. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte que des personnes qui sont extérieures à la fac se sentent concernées et puissent aussi montrer leur travail, faire des propositions.
Comment est-ce que vous pourriez rendre cet espace chaleureux, le transformer en un lieu de vie ? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà pensé à installer des distributeurs à café ? Ou à y créer un foyer, par exemple ?
Alors, oui, c'est vrai que c'est une question pour nous qui est assez importante. C'est de faire de ce lieu un lieu de vie. Dans l'idée, on aimerait en faire un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où plusieurs activités se côtoient et où surtout les étudiants, les étudiantes et le public extérieur se sentent accueillis. C'est vrai que le bâtiment tel qu'il est, la configuration des lieux, et pas forcément pratique, par exemple, pour y créer un foyer. On n'a pas assez d'espace, en fait, tout simplement. On n'a pas de pièces pour ça. On a une grande galerie qui doit rester un lieu de passage. C'est une obligation, mais qui peut quand même servir à proposer des activités. Donc là, on est en train de réfléchir à des actions, notamment avec les associations étudiantes présentes sur le campus, pour qu'il y ait des animations, pour qu'ils viennent faire peut-être des répétitions ici, s'ils en ont envie, ou qu'ils fassent des impromptus, ou qu'ils fassent des temps de rencontre. Il y a l'atelier tango aussi, qui s'en est saisi pour proposer des temps de pratique libres. En fait, il y a deux ateliers tango à la fac cette année. Il y en a un qui a été proposé par le SUAPS et un qui est proposé par le SIAM. Et donc ces deux ateliers se sont coordonnés pour que les étudiants enfin les personnels, etc., toutes les personnes qui suivent ces ateliers puissent se retrouver ici dans le hall et dans la galerie pour danser de temps en temps. Donc ça, c'est une des actions qui fait que ça rend le lieu vivant. Il y a encore beaucoup de choses à faire, peut-être repenser carrément l'accueil, c'est-à-dire peut-être envoyer bouler le bar, tout changer au niveau de la disposition des locaux pour remettre une circulation plus agréable, des endroits où se poser, ou alors travailler aussi avec des étudiants en design et en architecture pour penser du mobilier qui serait adapté et qui ferait qu'on aurait envie de se poser là, à l'intérieur ou sur le parvis. Voilà, ça c'est les pistes. Mais il y en a plein d'autres que je n'ai pas citées.
D'accord, et bien merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions.
Merci à vous pour votre invitation et longue vie à l'atelier Web Radio.
On passe tout de suite une bande d'annonce.
Que reste-t-il lorsqu'on enlève tout ?
Peut-on concevoir une exposition sans œuvre ni artiste ?
Si ces questions vous intriguent, rendez-vous à La Fabrique, chaque jour de 10h à 17h, pour y voir l'exposition Inventaire, montée par les étudiants en option art contemporain.
Derrière ces formules énigmatiques, leur intention est de mettre en lumière les régisseurs, scénographes, techniciens et autres métiers de l'ombre, faisant de leur travail une œuvre d'art à part entière.
C'est à La Fabrique, à l'entrée du campus. C'est de 10h à 17h, et surtout, l'entrée est libre et gratuite pour tout le monde.
Vous avez jusqu'au 17 décembre, alors dépêchez-vous.
Alors que les cours devaient reprendre aujourd'hui, le Mirail est à nouveau paralysé par les étudiants grévistes.
C'est en Assemblée Générale aujourd'hui que le blocage du Mirail a été voté jusqu'à mardi prochain.
Porte bloquée, Assemblée Générale, étudiants, personnel, tout le monde dehors.
L'évacuation de la fac du Mirail à Toulouse, elle était occupée depuis 2 mois par des étudiants qui protestent contre la réforme de l'accès à l'université.
Bonjour et bienvenue sur Zone Critique. Les étudiants de l'université du Mirail sont-ils en voie de radicalisation ? Blocage, manifestation, occupation, toilettes non genrées, est-il toujours possible d'étudier dans cette université gangrénée par les idéaux d'extrême gauche ? Notre envoyé spécial est allé enquêter sur le terrain. Blandine Blanchin, vous nous recevez ?
Oui, en effet, donc, nous sommes arrivés il y a peu sur le campus du Mirail où l'on peut voir nombre de tags et d'actes de vandalisme un peu partout sur les murs extérieurs de la fac. Mais ce qui nous marque plus particulièrement, ce sont les toilettes du bâtiment de l'Arche où nous sommes actuellement, où dans chaque toilette individuelle, on peut lire des tags qui s'étalent sur les quatre murs des toilettes. Nous avons par exemple ici Macron explosion, ACAB, un bon flic est un flic mort, brûler l'État, fuck la fac, allons en ZAD, et nombre d'autres messages que nous passerons.
Merci Blandine. Pour débattre avec nous, j'accueille également sur le plateau Roger Inventé, spécialiste de l'évolution des idées wokistes au XXIe siècle. Monsieur Inventé, vous venez de publier un livre aux éditions Réagir, intitulé « Islamo-gauchisme, les dérives d'une jeunesse endoctrinée ».
Bonjour. Oui, bien sûr, on remarque vraiment dans les milieux universitaires une prolifération d'idées sympathisantes de la gauche radicale, de l'extrême gauche même. En même temps, on est vraiment sur des établissements qui sont plus des établissements d'éducation, mais vraiment de propagande. Les étudiants censurent les cours, les profs sont privés de liberté d'expression. C'est vraiment la mort de la liberté d'expression à laquelle on assiste en direct.
Merci. Alors justement, avec nous sur le plateau aujourd'hui, Jérôme, étudiant en philosophie. Bonjour Jérôme, merci d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau de Zone Critique. Comment ça se passe en ce moment à l'université ? J'imagine que c'est difficile.
Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est vrai que les étudiants sont de plus en plus précaires, c'est parfois difficile de se concentrer pour étudier.
Mais... En même temps, on vit à une époque, avec les téléphones dans les amphis, avec TikTok, les militants qui traquent devant chaque salle, comment vous voulez qu'un étudiant se concentre ?
En fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Inventé. C'est la fin de cette édition spéciale. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux écoterroristes de la 69. C'était Emma Nouna pour Zone Critique.
Vous venez d'écouter une fiction sonore réalisée dans le cadre de cet atelier. Nous allons donc passer à l'interview d'Eva. Bonjour Eva.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Tu es bénévole à l'association Linky à Toulouse. Cette association permet aux étudiants et étudiantes les plus démunis d'accéder à des paniers repas. Dis-nous concrètement comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites à Linky ?
Du coup, on a 2 distributions sur Toulouse, hein, le lundi et le mardi. Moi, je suis plutôt sur le mardi, donc à côté, à la fabrique. Et en gros, on a 3 phases. On a la première phase où on va installer les produits, on va compter tout ce qu'il faut, parce qu'en fait, on doit calculer le nombre de produits qu'on met par chaque panier, en fait. Après, on a la phase où se passe la distribution, où nos bénéficiaires viennent. Et après, il y a la troisième phase où, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on désinstalle et on prend un temps aussi pour échanger sur comment est-ce que la distribution s'est passée, comment est-ce qu'on peut faire pour les prochaines fois pour améliorer ou non. Donc voilà.
D'où viennent les produits ?
Les produits, on a des dons et à la fois de l'achat. Donc ça va être la partie sec qui est plutôt des dons. Donc ça va être des invendus des magasins, par exemple. Et les fruits et légumes, c'est par contre des achats qu'on fait auprès de traiteurs, enfin de primes. Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe, mais voilà. Ça va être plutôt de l'achat sur cette partie-là.
D'accord. On a vu que l'une des actions gouvernementales dans le cadre du pacte national de lutte contre le gaspillage consiste à inciter les grandes surfaces à donner leurs invendus à des associations. Est-ce que vous en bénéficiez ?
Du coup, oui, ça va être plutôt que sur le sec. Enfin, quoi que les fruits et légumes, on a aussi du don des fois, mais ce n'est pas forcément de la qualité. Mais ouais, les invendus, ça va plutôt être sur tout ce qui est sec. Par exemple, on a eu les invendus des chocolats de Noël, donc de l'an dernier. Et là, en avril, pareil, on a eu les chocolats de Pâques. Donc pendant 6 mois, on a eu du chocolat à chaque distribution. C'était assez sympa, mais nos bénéficiaires aussi en avaient un peu marre. Mais voilà, c'est un exemple.
Chaque année, 40% de la production alimentaire mondiale termine dans les poubelles, d'après les chiffres d'une étude de WWF and Tesco de 2021. La France s'est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Et vous, recevez-vous des subventions ?
Du coup, oui, on en reçoit de la part de l'État, je sais, mais de plus en plus, en fait, on nous les réduit. Donc, voilà.
Si on s'intéresse maintenant à un autre chiffre, celui de l'inflation, d'après l'INSEE, en 2023, les produits alimentaires ont augmenté de 11,8%. Est-ce que ça a impacté la vie étudiante ?
Nous, on le voit de notre côté. Par exemple, on a fait une étude en 2024 sur avoir 20 ans, donc en 2024. Et par exemple, on s'est aperçu que parmi nos bénéficiaires, 1 sur 5 avait envisagé d'arrêter leur étude. Par exemple, 1 sur 2 sautait des repas régulièrement. Donc oui, ça a clairement eu un impact. Et on n'ose pas imaginer ce que ça va être dans les années qui arrivent parce que, par exemple, en décembre, on a de plus en plus de bénéficiaires. Donc en fait, ça cesse d'augmenter. Et c'est assez affolant.
Vous êtes à combien de bénéficiaires là actuellement sur Toulouse ?
C'est une bonne question parce que justement, cette semaine, on a encore battu des records sur Toulouse. Du côté du lundi, on a fait 513 paniers. Et du côté du mardi, on a fait 536, je crois. Enfin, je sais qu'en total, sur la semaine, on a fait 1049. Donc, on n'a jamais fait ce nombre de paniers depuis l'ouverture, en fait, de l'antenne. Et on remarque souvent, en décembre, c'est la période, bizarrement, avec l'arrivée des fêtes, c'est la période où on fait le plus de paniers.
Et vous envisagez d'augmenter ces distributions ?
Leur fréquence, on aimerait, mais il faudrait avoir du temps et plus de subventions et aussi plus de bénévoles parce que, par exemple, le mardi, on manque de bénévoles, donc c'est vraiment une grosse organisation. Donc je pense que pour l'instant, on n'en a pas parlé, c'est pas prévu de passer à plus de 2 distributions par semaine, ce qui est déjà pas mal pour notre ville.
Et par rapport à cette situation de précarité étudiante, est-ce que tu penses que la réponse de l'État est adaptée ?
Non, je pense clairement pas. Enfin, franchement, quand on voit qu'on nous baisse les subventions alors qu'on en a besoin de plus en plus et que la demande ne fait qu'augmenter, je pense que c'est clairement pas adapté du tout.
Et donc, pour pallier à ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents rôles que jouent les bénévoles dans l'association ?
Oui, du coup, on a l'équipe Cordeau, donc les coordinateurs où en fait on va un peu chapeauter la distribution et après on a 25 à 30 bénévoles par distribution. Où donc il y a, je crois, 5 rôles à peu près. Il y a les personnes qui vont distribuer en fait les aliments. Il y a les personnes qui vont être à l'émargement. Donc en fait, c'est comme si on faisait l'appel des bénéficiaires, on vérifie qu'ils sont bien inscrits. Il y a le coin reconditionnement où on reçoit des grosses quantités. Par exemple, je sais pas, un kilo de riz, on le va mettre dans des sachets pour le redistribuer aux bénéficiaires. Il y a le coin réapprovisionnement où en fait on va remettre les fruits et légumes dans les cagettes pour après pouvoir les distribuer. Il y a les boissons, donc en fait on va distribuer des boissons aux bénéficiaires et aux bénévoles. Par exemple, avec l'arrivée de l'hiver, on a du thé parce qu'attendre 2 heures dans le froid, c'est pas possible. Donc nous, on essaie au minimum de pouvoir aider nos bénéficiaires. Et enfin, on a le coin carton ou slash poubelle, on n'aime pas trop l'appeler comme ça parce que c'est pas top, mais en fait on va prendre tous les cartons, tous les déchets et les mettre sur un côté pour éviter que la distribution devienne en fait une déchetterie parce qu'on a énormément de cartons, de cagettes qui s'empilent. Donc voilà.
Si on regarde la composition des paniers, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Est-ce qu'il y a vous avez des critères sur lesquels vous écartez certains produits ?
Au niveau des paniers, on essaie de respecter la règle du 5 à 7 kilos par panier. On a donc des fruits et légumes, donc généralement on retrouve le classique patates, oignons, carottes. Après tout ce qui est fruits, ça change de semaine en semaine. On a pommes, bananes régulièrement. Cette semaine, par exemple, on avait des clémentines et des oranges. Donc, bien sûr, on s'adapte au niveau de la saison. On n'a pas des nectarines en hiver, comme on a pu avoir cet été. Et après, au niveau du sec, comme c'est des dons, on n'écarte pas forcément de produits. Mais on essaie, en tout cas, de prendre de la qualité en ce qui concerne les fruits et légumes, vu que c'est de l'achat. Et voilà.
Vous n'avez pas de produits animaux, par exemple ?
Si, des fois, on a des dons. Du coup, mais ça, on ne le donne pas aux bénéficiaires parce qu'on n'en a pas assez. Ça va être, par exemple, à un sachet de croquettes où on va dire aux bénévoles qu'il y a un chat, qu'il y a un chien et on va se le distribuer. Mais non, on n'a pas forcément des produits animaliers.
D'accord. Et si on a envie, en entendant cette interview, de vous aider, que ce soit en tant que bénévole ou donateur, comment on peut faire ?
Je sais qu'on peut donner sur notre site Linky. Il y a une rubrique « Faire un don ». Donc voilà, ça pourrait nous aider. Par contre, en distribution, on ne récupère pas de produits hors de ce qui vient de nous, en fait. Donc voilà, ça, par exemple, ça a écarté. Mais sinon, oui, on peut faire des dons régulièrement à l'association.
Eva, est-ce que tu peux nous expliquer la démarche pour devenir bénévole ?
Oui, c'est pas très compliqué. En fait, il faut se rendre sur notre site, justement, bah, pareil, une rubrique « Devenir bénévole » et on choisit la ville sur laquelle on veut être. Il y a un petit formulaire de 3 à 5 minutes à remplir. On va poser des petites questions, ton nom, ton prénom, si tu sais faire certaines choses. Bon, après, voilà, on renseigne comme on a envie. Et après, ça va envoyer sur un lien, donc soit sur la distribution du lundi, soit sur la distribution du mardi. Il suffit, pareil, de s'inscrire. Tu mets ton nom, ton prénom, ton mail et c'est bon, tu vas recevoir une inscription. Et après, il suffit de te rendre en distribution pour pouvoir faire le bénévolat.
On peut peut-être rappeler le site de l'association, Linky, linkk2e.co. Merci Eva d'avoir été avec nous.
Ben merci à vous.
Bonjour Tom, toi tu as bénéficié des paniers repas, est-ce que tu pourrais nous décrire un panier type ?
Bonjour, oui, j'en ai profité plusieurs fois, je vais pas peut-être refaire la liste parce que Eva en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai qu'un panier type c'est souvent assez complet, donc comme Eva a dit, on a souvent des patates, des carottes, des oignons, des fruits, des légumes, souvent du sucré et du salé, donc ça permet de faire des repas complets et ça peut permettre en fait de substituer carrément à des courses. Donc c'est vrai que pour ça, c'est une aide précieuse pour les étudiants qui en ont besoin.
Ils ont bravé le froid et les petits cailloux dans les chaussures. Ils ont semé les prédateurs et supporté les courbatures. Ils ont échappé à la mort pour vous offrir ces clichés.
Alors tu n'as pas le choix. Les photos réalisées par les étudiants de l'option randonnée du SUAPS seront exposées au tiers-lieu à l'UFR Olem de Gouges. Viens du 16 au 20 décembre de 13h à 18h pour admirer ces chefs-d'œuvre.
On espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de La Fabrique Sonore. Merci à nos invités et à Alexandra de Média Commun. Rendez-vous en avril pour le prochain épisode.
Ce podcast a été réalisé par des étudiants de la faculté Jean Jaurès à Toulouse dans le cadre d'un atelier artistique du SIAM sur le premier semestre 2024. Cet atelier est animé par Alexandra Josse pour Média Commun Occitanie. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
C'était La Fabrique Sonore.
Université.
Découverte.
Participation.
Création.
Expérimentation.
La Fabrique Sonore.
Sonore.
Sonore.